Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RFI. Il est 3h en temps universel, 5h à Paris, 2h de plus à Jérusalem.
Léa Boutin-Rivière.
Est-ce un signe de futures négociations? Hier, le Hamas a libéré Eden Alexander, dernier otage israélien à avoir la nationalité américaine, à la veille d'une tournée diplomatique de Donald Trump dans la région. Fini la lutte armée, place au combat démocratique. Le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a annoncé son autodissolution hier, annonce saluée par Ankara et qui pourrait avoir des conséquences pour les Kurdes de Syrie. Dans ce journal également, poignée de main et grand sourire, le Gabonais Brice Oligui Nguema et l'Angolais João Lourenço ont définitivement mis fin à des semaines de bruit diplomatique. Et puis en Argentine, 7 boîtes de documents nazis retrouvées au sous-sol de la Cour suprême, 80 ans après leur disparition. Des cris de joie, des pleurs, des applaudissements en Israël. La place des otages de Tel Aviv a vibré d'émotion hier à l'annonce de la libération d'Eden Alexander par le Hamas après 19 mois d'incarcération dans la bande de Gaza. Ce soldat de 18 ans au moment des attaques du 7 octobre 2023 était le dernier otage vivant dans l'enclave à avoir la nationalité américaine. Alors pour les centaines de personnes réunies hier à Tel Aviv et à Jérusalem, il y a un espoir, celui que les États-Unis fassent pression pour de nouvelles négociations, un accord et le retour de tous les otages. D'autant que Donald Trump a salué une première étape vers, je cite, « la fin de cette guerre brutale ». Correspondance Michel Paul.
Vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous, scandent des manifestants venus soutenir les familles des otages. Partagé entre la joie et une profonde inquiétude, après la libération d'Eden Alexander, il faut continuer sans s'arrêter pour le retour de tous, affirme le Forum des familles des otages encore retenus à Gaza. 20 d'entre eux sont présumés être vivants. Particulièrement virulente, Enav Zangauker, la mère de Matan.
Je te le promets, Netanyahou. Si tu ne mets pas fin à la guerre maintenant et que mon fils est tué à cause de toi en captivité, je te poursuivrai jusqu'à ton dernier jour. Et je ne serai pas seul.
Spontanément, un rassemblement s'est formé face au consulat des États-Unis pour réclamer le retour de tous les otages, notamment ceux qui ne possèdent que la seule nationalité israélienne. Yehuda et le père de l'otage, Nimrod Cohen.
I'm calling President Donald Trump.
J'en appelle au président Trump. Après avoir relancé la libération des otages, à commencer par le ressortissant américain Eden Alexander, de continuer et de ramener tous les otages à la maison.
Et sur des pancartes, on pouvait lire « In Trump we trust », nous avons confiance en Trump, une paraphrase de la devise des États-Unis. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Pour permettre cette libération, l'armée israélienne a brièvement interrompu ses frappes contre la bande de Gaza. Un rare répit dans l'enclave où le risque de famine est désormais critique. Plus d'un cinquième de la population est au bord d'une situation catastrophique, d'après un rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Une détérioration significative depuis le mois d'octobre dernier, indique le rapport, après plus de 2 mois de blocus humanitaire imposé par Israël. L'État hébreu absent de l'itinéraire de voyage du président américain Donald Trump qui entame aujourd'hui un déplacement dans la région. Ces 3 jours de visite l'emmèneront aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite. Alors que ces 3 pays sont devenus des centres de gravité géopolitique cruciaux, il devrait être question du programme nucléaire iranien, des négociations à Gaza, mais aussi largement d'économie. D'après la presse américaine, l'administration Trump viserait des contrats au-delà des 600 milliards de dollars, rien qu'avec les autorités saoudiennes. Et tant qu'à être dans la région, pourquoi ne pas ajouter un crochet par la Turquie? Le président américain envisage de se rendre jeudi à Istanbul, c'est ce qu'il a dit, pour assister aux discussions sur l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il serait présent à ses pourparlers directs et sans conditions préalables pour un cessez-le-feu. Mais il a renvoyé la balle à son homologue Vladimir Poutine, qui l'a dit attendre. Pas de réponse pour l'instant du Kremlin. Les deux hommes ne se sont pas rencontrés depuis le début de la guerre. Recep Tayyip Erdogan en rêve être le maître d'œuvre d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Mais il a aussi fort à faire sur la scène intérieure. Le président turc a salué hier soir une décision importante pour le maintien de la paix dans son pays. après l'annonce plus tôt dans la journée de l'auto-dissolution du PKK. Avec cette décision, le Parti des travailleurs du Kurdistan fait tomber le rideau sur 40 ans de lutte armée et privilégie une politique démocratique pour résoudre la question kurde. Au-delà des frontières de la Turquie, cette annonce pourrait être une bonne nouvelle pour les Kurdes de Syrie, selon Ahmet İnsel, économiste et politologue spécialiste de la Turquie.
Sur la Syrie, les choses évoluent essentiellement en fonction de l'évolution du nouveau gouvernement syrien. Mais la Turquie avait une exigence très forte. Aucune revendication autonome kurde ou présence autonome kurde en Syrie. On a l'impression que, de ce point de vue-là, la Turquie a réduit son exigence et que peut-être c'était un des éléments importants de la négociation avec le PKK qui laisse la possibilité d'une autonomie à définir pour que les Kurdes puissent avoir une entité administrative ou politique identifiée.
Propos recueillis par Lila Olkinyura. RFI, il est 4h06 à Libreville où un ciel sans nuages planait hier sur les relations entre le Gabon et l'Angola. Le président João Lourenço s'est rendu dans la capitale gabonaise, devenant le tout premier chef d'État en déplacement officiel dans le pays après l'investiture du président Brice Oligui Nguema. 19 mois après le coup d'État qui a défait l'ex-président Ali Bongo et après une période de rapports tendus, voire au bord de la rupture entre les deux pays, cette visite avait une portée symbolique majeure. Yves-Laurent Gomin.
Brice Clotaire Oligui Nguema a lui-même effectué le déplacement à l'aéroport Léomba de Libreville pour accueillir son hôte. Les deux hommes tout sourire se sont ensuite rendus au palais présidentiel pour un entretien soldé par une conférence de presse conjointe. Cette complicité était impossible au lendemain du coup d'État du 30 août 2023 qui avait renversé le régime d'Ali Bongo. Oligui Nguema, qui s'était emparé du pouvoir, avait aussitôt entamé une tournée régionale pour s'expliquer et solliciter le soutien des dirigeants de la région. João Lourenço, le président angolais, fut à cette période l'unique chef d'État qui a refusé de le recevoir. L'Angolais disait être attaché aux principes de l'Union africaine qui condamne toute prise de pouvoir par la force. Libreville et Luanda ont frôlé la rupture des relations diplomatiques. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Le 30 avril dernier, l'Union africaine, dont João Lourenço est le président en exercice, a levé toutes ces sanctions contre le Gabon. Le président angolais est donc venu saluer le retour à l'ordre constitutionnel au Gabon. Yves-Laurent Gomard, Libreville. RFI.
Charge à Brice Oligui Nguema désormais de rendre la politesse à son homologue. João Lourenço l'a en effet invité à se rendre à Luanda. Le chef d'État angolais a par ailleurs rendu visite à Ali Bongo, toujours dans sa résidence de la Sablière à Libreville. Il aura fallu des années de recherche et d'enquête acharnée pour le retrouver. Un cataclé trône à trois pieds du royaume du Dahomey, fait son retour en grande pompe aujourd'hui au Bénin. Ce mardi, la Finlande restitue officiellement ce trésor oublié pendant 8 décennies dans un musée d'Helsinki et retrouvé grâce au travail de l'historienne de l'art Marie-Cécile Zinsou, de la conservatrice finlandaise Pilvi Vainonen et de Radio France Internationale. Rendez-vous à 7h temps universel sur notre antenne pour un dossier consacré à cette restitution. Eux aussi étaient perdus, tout du moins oubliés depuis des années et même des décennies. En Argentine, les autorités ont remis la main sur des centaines de documents nazis. Théo Conscience, il prenait la poussière depuis plus de 80 ans dans les archives de la Cour suprême argentine.
Les 7 boîtes retrouvées dans les sous-sols du palais de justice contiennent des centaines de photographies, d'éléments de propagande et de cartes de membres d'organisations nazies. Ces boîtes faisaient partie d'une cargaison envoyée à Buenos Aires par l'ambassade allemande au Japon en 1941. Elles avaient à l'époque été saisies par les douanes et transmises à la justice afin de déterminer si elles contenaient des éléments susceptibles de compromettre la politique de neutralité de l'Argentine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les boîtes avaient alors été ouvertes avant d'être laissées sous scellés judiciaires et oubliées pendant des décennies. Retrouvées à la faveur d'un déménagement d'archives, ces boîtes ont été rouvertes la semaine dernière en présence du grand rabbin de l'Association Mutuelle Israélite Argentine et du directeur du musée de l'Holocauste à Buenos Aires. Le président de la Cour suprême a ordonné leur conservation et la création d'un inventaire afin de déterminer si ces documents peuvent apporter de nouvelles informations sur l'Holocauste ou sur les réseaux nazis en Argentine et dans le monde. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
RFI, il est 5h10 ici à Paris.